Sans plus tarder, on va lire un premier texte dans Luc au chapitre 1er. Évangile de Luc au chapitre 1er. À partir du verset 26, ce passage de l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Luc chapitre 1er, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Nous zoomerons les versets particuliers de 30, 31. « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Celles et ceux qui s'approchent de Dieu avec sincérité reçoivent plusieurs promesses dans leur vie de la part du Seigneur. Lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous lui ouvrons notre cœur, il y a plusieurs promesses qui s'attachent automatiquement à notre vie. Alors certaines de ces promesses ont un accomplissement immédiat. Et nous disons « Alléluia », c'est beaucoup plus facile à vivre. Mais par contre, d'autres promesses ont un avenir plus lointain. Et même certaines promesses, nous ne les verrons pas s'accomplir ici-bas sur la terre. Et c'est le cas de Marie. Marie qui va recevoir une promesse immédiate. Regardez au verset 30. « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Voilà une bénédiction, une promesse qui a un effet immédiat. Marie a trouvé grâce devant Dieu. Et il y a ensuite des promesses qui sont un petit peu plus lointaines. Il est écrit ceci : « Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Et des promesses qui sont encore un petit peu plus loin, il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et il y a encore des promesses qui vont s'attacher à la vie de Marie, des promesses qu'elle ne verra pas ici-bas sur la terre, parce qu'il s'agit bien sûr de la seconde venue de Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Lorsque nous nous approchons du Seigneur, plusieurs promesses s'attachent à notre vie. Certaines ont un effet immédiat, certaines ont un effet à court terme, d'autres à moyen terme. Certaines, nous ne les verrons pas s'accomplir ici-bas sur la terre. Il en va, comme pour Marie, de même pour nous. Et il y a, c'est vrai, cet aspect particulier de la parole du Seigneur, eh bien, c'est que la foi, à ceci de particulier, c'est qu'elle tient parfois des promesses immédiates dans nos vies. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de beaucoup plus facile à vivre. Mais aussi, la foi, elle tient des promesses à distance. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Ce sera le titre de notre partage ce matin, « La foi à l'épreuve du temps ». La foi à l'épreuve du temps. Il y a aussi pour nous, lorsque nous nous approchons du Seigneur, et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui n'a pas encore découvert la grâce de Dieu, il y a des promesses immédiates dans notre vie qui s'accomplissent immédiatement lorsque nous nous approchons du Seigneur, un peu comme Marie qui a trouvé grâce devant Dieu, je peux vous le dire ce matin, et tout ce que nous avons partagé jusqu'à présent le prouve. Si tu t'approches de Dieu ce matin, sache que tu as trouvé grâce devant le Seigneur. La croix est encore présente autour de nous, c'est vrai que c'est le week-end pascal, on s'interpelle peut-être une fois par an, un petit peu de tout ce qui s'est passé autour du sacrifice de Jésus, mais c'est une réalité, un vécu permanent dans notre vie. La croix, elle est encore redressée, le trône de la grâce est ouvert pour quiconque s'approche du Seigneur. Oui, je peux vous affirmer, c'est la parole de Dieu qui le dit, tu reçois des faveurs immédiates lorsque tu ouvres ton cœur au Seigneur, la porte de la grâce qui s'ouvre sur ta vie. Le Seigneur ne tarde pas et c'est des choses immédiates dans notre cœur. Nous l'avons expérimenté et cette promesse effectivement du salut de notre âme, c'est quelque chose d'immédiat. Dieu ne nous fait pas attendre. Celui qui croit au Fils, dit la parole, il a la vie éternelle. Voilà une promesse qui s'attache à la vie de toutes celles et ceux qui s'ouvrent, qui ouvrent leur cœur à la grâce du Seigneur. Oui, une promesse à effet immédiat, le salut de notre âme. Quelle joie encore ce matin de rappeler que c'est à la croix du calvaire que Jésus-Christ a donné sa vie pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous relisons, c'est vrai, tous ces passages de la crucifixion, tous ces passages de l'arrestation, le dernier repas du Seigneur avec ses disciples, toute la passion de Christ, c'est vrai qu'il y a de quoi être bouleversé, mais ce qui est le plus bouleversant pour chacun d'entre nous, c'est de réaliser que sans cet événement crucial de l'humanité, nous serions perdus éternellement loin de Dieu. Voilà une promesse à effet immédiat pour quiconque veut s'approcher de lui. Si tu crois au Fils, tu reçois la vie. Il y a d'autres promesses qui s'attachent à la croix et la crucifixion. J'en profite parce que c'est une pensée qui est venue très forte à mon cœur. Lorsque nous regardons à la croix en cette fête pascale, nous pouvons penser à ce verset, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui » dans Romains chapitre 8, verset 32. La parole de Dieu est là pour nous réconforter. La parole de Dieu est là encore pour nous encourager, stimuler notre foi pour regarder à Christ. Non pas un seul événement, même s'il a été merveilleux dans notre vie, de recevoir le salut de notre âme, mais de toujours dépendre de la grâce qui coule de la croix du calvaire. Oui, lorsque la foi a ceci de particulier, c'est qu'elle tient des promesses immédiates, ça peut être parfois même un exercement à la prière, certains se sont approchés du trône de la grâce, ont demandé une guérison particulière dans leur corps, une demande particulière dans leur vie, et ils ont reçu des promesses immédiates. Mais la foi aussi, ce n'est pas que cela, ce serait trop facile. La foi aussi, elle tient des promesses un peu plus lointaines. Peut-être que le Seigneur t'a promis un travail, un conjoint. Peut-être que le Seigneur t'a promis des enfants. Peut-être que le Seigneur t'a promis un foyer. Et là, il y a un peu plus de temps entre la promesse qui est descendue et que le Seigneur t'a donnée, et l'accomplissement de cette promesse. Il y a aussi, comme nous le voyons et nous l'avons lu pour Marie, il y a des promesses dont nous ne verrons pas l'accomplissement ici-bas sur la terre. C'est peut-être la conversion des membres de notre famille. Combien ont reçu des promesses, combien ont intercédé, prié. Et ce n'est qu'après leur départ de la terre que des membres de leur famille ont donné leur cœur à Jésus. Peut-être ne verrons-nous pas le retour du Seigneur de notre vivant. Mais qu'importe, je dirais, la distance qu'il y a entre la promesse que Dieu implante dans nos cœurs et son accomplissement, l'important c'est que nous gardions toujours la foi et la confiance totale en notre Seigneur. Oui, parfois, il y a des promesses que nous ne voyons pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts. » Vous savez, dans le chapitre 11, où il parle de tous ces témoins de la foi, il dit ceci, « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. » On va le partager un petit peu tout à l'heure, tous ces signes que Dieu place sur notre vie. Ils l'ont vu et ils l'ont salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parle ainsi montre clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité dans Hébreux 11, 13 à 16. Ils n'ont pas reçu les promesses, ce qui leur avait été donné. La foi, à ce site particulier, c'est qu'elle tient des promesses immédiates. Comme je le disais, elles sont beaucoup plus faciles à gérer dans notre vie. On n'a pas à gérer l'impatience. Seigneur, bénis-moi de suite. Et des promesses à distance. Et c'est dans ce cas que nous devons reconnaître que ce n'est pas toujours facile pour notre nature humaine, eh bien, d'attendre ce laps de temps plus ou moins long. C'est le thème que je veux partager avec vous ce matin, la foi à l'épreuve du temps. Et la Bible nous donne un témoignage remarquable. Abraham qui est nommé comme le père de tous les croyants, un modèle de foi extraordinaire pour nous, et il sert de modèle pour nous aujourd'hui. Abraham a dû attendre 25 ans. 25 ans, l'accomplissement de cette promesse. Dieu lui avait promis qu'il serait le père, qu'il aurait une descendance, qu'il serait même père d'une grande nation. C'est aussi cette promesse dont il ne verra pas l'issue de son vivant. Mais même si cet homme, et nous le voyons, et la parole de Dieu est extraordinaire parce qu'elle ne nous cache pas ses défauts, même si ce n'était pas un homme parfait, la Bible parle des échecs aussi d'Abraham. Eh bien, l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, nous parle de cette foi qui, malgré l'épreuve du temps, elle ne faiblit pas. Au contraire, elle se fortifie pour la gloire et l'honneur de Dieu. Alléluia. Vous me croyez? Romains 4, verset 18, on le lit ensemble. Romains 4, verset 18, des textes que nous connaissons bien, mais sont là pour nous stimuler encore ce matin. Le Seigneur veut nous encourager. Ce laps de temps peut être plus ou moins long entre la promesse et son accomplissement. Et à nous aussi d'avoir les bonnes attitudes et de ne pas laisser l'ennemi de nos âmes nous voler ce bien si précieux des promesses du Seigneur sur nos vies. Romains 4, verset 18. L'apôtre Paul nous parle de ce modèle d'Abraham, espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Je crois que le plus grand secret d'une attente joyeuse dans notre vie, une attente fervente et vivante de l'accomplissement de la promesse, c'est bien cette conviction que ce qu'il a promis, il l'accomplira. Nous devons reconnaître avec honnêteté que cette attente, qui parfois est longue, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, si nous prenions le temps de parler de ces promesses que Dieu a fixées sur vos vies. Le jour où vous avez donné votre cœur au Seigneur, à d'autres moments de votre vie, il y a des promesses extraordinaires qui s'attachent sur chacune de nos vies. Quelle attitude nous gardons devant le Seigneur ? Quand le temps est long, quand les circonstances semblent totalement contraires. Abraham n'était plus en âge d'eux, mais il se fortifie. Cette foi, elle prend encore plus de vigueur. Elle glorifie le nom du Seigneur et garde cette détermination, cette conviction que Dieu ne ment pas. Il l'a promis. Qu'importe sa manière, il le fera. Et nous voulons garder cette position. La première chose que je voudrais laisser sur votre cœur, la première partie, c'est qu'il est important pour nous, dans ce thème de la foi à l'épreuve du temps, c'est de discerner l'utilité de notre transformation pour l'accomplissement de la promesse. Il y a, dans cette notion de temps, très souvent, on le voit dans la parole de Dieu, on prendra juste quelques exemples, un temps que Dieu met à profit pour nous rendre capables dans l'accomplissement de la promesse. Plus on est jeune, plus on reçoit des promesses, notamment pour le service extraordinaire, plus nous avons du mal à associer une mesure de temps. Voilà, quand on a 50 ans, c'est autre chose. On ne voit pas le temps de la même manière. Mais ce qui est important, c'est de garder, on va le repartager encore intensément ce matin, vraiment cette parole du Seigneur, et peut-être considérer, alors que nous sommes encore dans ce temps de la réalisation de la promesse dans notre vie, eh bien qu'il y a aussi l'utilité, parce que nous ne sommes pas prêts peut-être pour l'accomplissement tout simplement de cette promesse. Nous voyons très rapidement le cas de trois hommes dans la Bible où il est évident que Dieu a mis ce temps à profit pour accomplir eh bien, cette promesse tout en transformant ces hommes afin d'être rendus capables de vivre cette promesse. Je pense à Joseph. Joseph, vous vous rappelez les songes ? Révélation extraordinaire. Promesse formidable, qui s'attache à sa vie à l'âge de 17 ans, qui ne verront leur accomplissement qu'à l'âge de 30 ans. Toutes ces années, Joseph va connaître de terribles souffrances, des vents contraires à la promesse qu'il avait reçue. Tout pouvait témoigner que ce qu'il avait reçu, il pouvait le mettre complètement de côté. Tout pouvait l'interpeller comme doutant peut-être de l'avoir vraiment reçu du Seigneur. Joseph frôle la mort, il est vendu, il est faussement accusé, il se retrouve en prison, tout cela dans un pays qu'il ne connaît pas, une culture complètement différente, un pays étranger, des mœurs, cultures différentes, loin de ses propres racines. Et Dieu va mettre tout ce temps à profit pour forger son caractère afin de devenir ce chef remarquable pour le pays d'Égypte, mais pas non seulement pour le pays d'Égypte, mais aussi pour le peuple d'Israël. Regardez juste avec moi dans Actes au chapitre 7, Actes chapitre 7, verset 9, ces paroles d'Étienne. Acte 7, verset 9, les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit, gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Amen. L'exemple de Joseph, Dieu met ce temps à profit pour façonner, c'est comme ce potier avec ce vase, il le façonne pour l'accomplissement de la promesse qui a été sur sa vie. Le temps manque pour dire beaucoup de choses autour de la vie de Joseph, peut-être je dirai deux mots encore tout à l'heure, mais je passe maintenant à Moïse. Moïse avait 40 ans quand il a compris, réalisé, senti dans son cœur ce à quoi Dieu l'appelait. Et cela aussi, c'est un exemple pour nous de voir combien il est important dans ce laps de temps de l'accomplissement de la promesse, de ne pas l'accomplir charnellement. C'est ce que Moïse a fait. Il avait cette conviction, cette réalité présente dans son cœur. Il avait compris sa mission et il a voulu accomplir charnellement. Mais Dieu va façonner cet homme pendant 40 ans dans le désert. Tout ce temps, Dieu va le mettre à profit pour qu'il soit dépouillé de ses capacités humaines, de ses propres forces. Dieu va mettre en évidence qu'il puisse prendre conscience également de toutes ses faiblesses, de tous ses défauts, afin que plus tard lui-même soit capable de supporter les faiblesses, les défauts des autres, quand il sera amené à conduire ce peuple. Entre les mains du divin potier, il est devenu un homme extrêmement patient. La parole de Dieu dit ceci, « Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. » Dans Nombre chapitre 12, verset 3, « Le fallait-il pour pouvoir conduire le peuple d'Israël comme il l'a fait ? Un peuple qui était rebelle, un peuple souvent insatisfait dans ce désert. » Dieu met à profit ce temps, et c'est important pour nous de réaliser dans ce thème de la foi à l'épreuve du temps, qu'il est important de discerner aussi l'utilité de notre transformation personnelle pour l'accomplissement de la promesse. Il y a aussi le témoignage de David. David avait 15 ans. Je parlais de la jeunesse tout à l'heure parce que c'est vrai que parfois, alors quand j'étais un petit peu plus jeune, je me posais la question, mais pourquoi Dieu aussitôt met des promesses aussi extraordinaires qui sont aussi éloignées dans le temps? Voilà, il y a beaucoup de choses à dire autour de ça, mais qu'importe. Ce qui est important, c'est de réaliser que, quel que soit l'âge, Dieu nous appelle, nous avons tous reçu des promesses de la part du Seigneur, et c'est vrai que David, il avait 15 ans lorsqu'il reçoit l'onction royale. Il est écrit ceci, « Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. » À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama dans 1 Samuel 16, verset 13. Et vous savez le chemin que David va suivre, puisque ce n'est qu'à 30 ans qu'il prendra la fonction de roi pour Israël. Il va accepter l'humiliation, il va accepter l'injustice, l'envie de meurtre même de la part de Saül. Tous ces temps certainement de solitude, peut-être des temps aussi d'incertitude. Je ne sais pas si ça vous parle. Les temps de solitude, les temps d'incertitude, de grandes souffrances vont permettre, parce qu'il est confiant dans l'Éternel bien sûr, vont permettre de forger un caractère à l'image du Seigneur pour assumer ce rôle qui n'est pas un rôle simple, de gouverner le peuple d'Israël. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous devons faire attention de ne pas nous décourager au sujet des promesses que Dieu nous a données. La longueur du temps, les circonstances parfois difficiles, comme je le disais, les événements parfois totalement contraires à la promesse que nous avons reçue. Il y a peut-être le doute parfois qui peut s'installer. Dieu ne nous laisse pas tout seul. Et je voudrais arriver sur ce deuxième thème. Il est important, si nous voulons tenir ferme jusqu'au bout, il est important aussi de discerner les signes annonciateurs de l'accomplissement de la promesse. Nous pouvons serrer toute notre vie la promesse du Seigneur et nous devons le faire pour que notre foi soit stimulée. Mais nous devons aussi être attentifs, sensibles à ces signes que Dieu va mettre dans notre vie, pour nous rappeler, pour nous montrer combien cette promesse va se réaliser. Vous savez, je disais, quand on vient au Seigneur, plusieurs promesses s'attachent à notre vie. Il y a une des plus grandes promesses, je crois, de notre vie chrétienne qui s'est attachée à notre vie lorsque nous sommes devenus chrétiens, eh bien c'est celle du retour de Jésus. La promesse qu'il viendra une seconde fois pour nous chercher et nous prendre avec lui. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 24. Matthieu 24 et au verset 32. Il y a énormément de textes qui parlent de la seconde venue de Jésus-Christ et comment le Seigneur nous a avertis. Juste ces quelques versets pour nous sensibiliser, en tout cas réaliser qu'il est important de discerner les signes annonciateurs de l'accomplissement de la promesse. Il est dit au verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, alors il faut relire bien sûr tout le contexte de ce chapitre, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Alléluia. Et nous voulons être sensibles. Nous avons cette promesse. Est-ce que nous la gardons, la serrons dans notre cœur? Est-ce que nous sommes sensibles aussi à tout ce qui se passe autour de nous et toutes ces choses que le Seigneur nous a annoncées? Il est important de discerner les signes annonciateurs de l'accomplissement de la promesse. Il suffit de voir la parabole des 10 vierges pour réaliser que beaucoup ne seront pas prêts. Ils ont entendu, connu, mais ils ne sont pas restés dans cette position comme Abraham, une position de foi, de se fortifier en attendant pleinement la réalisation de cette promesse. Tout en serrant la promesse de son retour dans notre cœur, Dieu nous donne des signes, et des signes que je dirais aujourd'hui évidents, afin que nous gardions courage, que nous levions la tête, mes frères et sœurs, que notre foi en lui soit non seulement intacte, mais toujours plus grande, plus forte, fortifiée dans la foi comme Abraham pour attendre son retour. Vous l'attendez, son retour? Amen. Alléluia. Il est difficile de gérer ces temps parfois longs de la réalisation des promesses que Dieu attache à nos vies. Mais on peut regarder à Marie encore. Marie, mère de Jésus, on revient dans Luc, mais au chapitre 2. Nous ne parlons pas trop de Marie, mère de Jésus, certainement aussi par réaction à ce qu'on a fait de Marie, tout ce qui est la mariologie, la place qu'on lui a donnée. Mais je vous encourage à méditer la parole de Dieu autour de la vie de Marie, parce qu'elle est vraiment un modèle extraordinaire de foi pour chacun d'entre nous. Et lorsque nous méditons, et par exemple ces quelques versets que nous avons là, nous voyons qu'elle n'est pas du tout, et qu'elle en tout cas n'accepterait pas du tout la place qu'on lui a donnée. Luc 2, verset 15, « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Retenez ce verset, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. Voilà la bonne attitude, savoir discerner les signes de l'accomplissement de la promesse. Vous savez, on est assez capable de ruminer, vous savez, les idées noires, les choses négatives dans notre vie, au point parfois même de perdre le sommeil et de se trouver dans un état désespéré. Ce que nous propose la parole de Dieu est le témoignage de Marie, qui attendait aussi l'accomplissement des promesses qui étaient faites sur sa vie. Ce que nous révèle la parole de Dieu et ce qu'elle nous encourage à faire, eh bien, c'est que nous puissions ruminer, cultiver dans nos cœurs les promesses que le Seigneur a posées sur nos vies. Et tous ces signes annonciateurs de la venue ou de la promesse que le Seigneur a placée sur notre vie, Marie, elle gardait toutes ces choses et elle les repassait dans son cœur. Voulez-vous fortifier votre foi en attendant l'accomplissement de la promesse? 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans, qu'importe. Ça fait long quand même 40 ans, non? Elle repassait dans son cœur. Et nous pouvons dire à la lecture de la parole de Dieu que tous ceux qui sont sensibles aux choses de l'esprit voient véritablement les signes annonciateurs de la manifestation de la gloire de Dieu, comme j'ai pris l'exemple du retour de Jésus, mais nous pourrions prendre d'autres exemples dans la parole de Dieu. Ce signe est peut-être parfois discret, c'est pour cela qu'il faut être sensible. Se rapprocher, comme cela a été dit encore ce matin, dans la présence du Seigneur, un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est peut-être quelque chose de très simple. C'est peut-être comme cette étoile qui a conduit les mages d'Orient à Jérusalem. Je ne sais pas quels moyens Dieu peut utiliser pour nous interpeller. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, verset 14. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette sensibilité, cette proximité, oui, dans la présence du Seigneur, pour que chaque fois qu'il y ait comme ces petites lueurs d'espoir dans notre vie, nous puissions les saisir pleinement dans nos vies. Regardez dans Luc 2, verset 42, Luc chapitre 2, verset 42, il est dit ceci, « Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête, ils montèrent à Jérusalem. Puis quand ces jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent l'enfant, Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. » Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Regardez l'attitude de Marie. Marie, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Personne ne comprenait l'attitude de Jésus-Christ, mais Marie, une fois de plus, va se servir de ces circonstances pour discerner les signes annonciateurs de la manifestation de la gloire de Dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez reçu des promesses de la part du Seigneur. Je sais peut-être que cela fait fort longtemps, peut-être. Je sais aussi que sur ce chemin-là, peut-être le diable a essayé de vous enlever ces précieuses promesses. Et peut-être que si beaucoup ne sont plus parmi nous, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi. Peut-être ont-ils été impatients, déçus de ne pas voir l'œuvre de Dieu s'accomplir rapidement. Mais si je peux comprendre tout cela, et j'ai envie quand même par la parole de Dieu ce matin de vous encourager. Peut-être que cette promesse vous l'avez mis un petit peu de côté, et faites rejaillir cette promesse dans votre cœur. Repensez, méditez, priez le Seigneur pour qu'elle rejaillisse encore dans votre cœur comme au premier jour. Réfléchissez bien, demandez au Seigneur peut-être de vous révéler les fois où il vous avait donné des jalons, des signes sur votre vie et que vous n'avez peut-être pas compris. Il est temps, mes frères et sœurs, comme Abraham, de fortifier notre foi si souvent chancelante en proclamant ceci, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Je ne sais pas comment vous voyez le printemps, c'est une saison extraordinaire. Quand on voit tous ces arbres en fleurs, les cerisiers, magnifiques, les pruniers. Nous avons eu l'occasion il y a quelques années d'aller dans des régions où il y avait des collines remplies de pruniers. Et au moment où ils étaient en fleurs, c'était pratiquement comme si la colline était, comme s'il avait neigé. Extraordinaire, c'est magnifique. Et ces fleurs, si magnifique par elle-même, annonce la venue du fruit. Et je crois qu'il en va de même pour la promesse, pour tous ces signes annonciateurs que Dieu place devant nous, c'est magnifique. c'est merveilleux, ça redonne de l'espoir, du courage. Ce n'est pas encore le fruit, mais annonciateur de ce fruit merveilleux que Dieu veut faire éclore dans nos vies. Vous savez, nous sommes des gens complexes. Vous l'aviez remarqué ? Ah. Parfois, nous ressentons que Dieu va nous exaucer rapidement et il nous dit d'attendre patiemment. D'autres fois, nous sommes prêts, des fois un peu avec fatalité, de dire, bien, ça sera pour plus tard. Un peu à l'exemple, lorsque vous savez la résurrection de Lazare, il est dit ceci, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Parfois, on est disposé à mettre de la distance. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jean 11, verset 23. C'est vrai qu'on est compliqué des fois. Dieu veut nous l'apporter immédiatement et nous avons mis la distance. Ce qui est important, et je voudrais terminer par ce troisième point, la foi à l'épreuve du temps, c'est aussi, vous allez trouver ça curieux, mais l'importance de discerner l'accomplissement de la promesse. Vous allez me dire, ça c'est le plus facile. Pas si évident que cela. Un des grands drames de la nation d'Israël, c'est de ne pas avoir reconnu le Messie promis dans la personne de Jésus-Christ. Quand vous lisez le premier verset d'Ésaïe 53, il est écrit ceci, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Du temps même de Jésus, beaucoup attendaient le Messie. Ils avaient devant leurs yeux, en chair et en os, l'accomplissement de la promesse et ils ne l'ont pas reconnu comme tel. Même aujourd'hui encore, les Juifs attendent la venue du Messie alors que ça fait 2000 ans qu'il est venu, qu'il est parti et qu'en définitive, nous sommes dans la phase où nous attendons sa seconde venue, son retour. Alors, ne leur jetons pas trop vite la pierre, car il arrive parfois, nous aussi, que nous ne voyons pas l'accomplissement de la promesse et que nous soyons encore dans ce que j'appellerais une attente injustifiée. La parole de l'Éternel est claire, « Mes pensées, dit le Seigneur, ne sont pas vos pensées. Vos voies ne sont pas mes voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les façons d'agir de Dieu ne sont pas les mêmes que nous. Et il arrive, ainsi que l'accomplissement de la promesse de Dieu, arrive parfois par des chemins que nous n'attendions pas. Un peu comme le peuple d'Israël dans cette attente. Si vous regardez l'Ancien Testament, je vous ai parlé de Ésaïe 53, mais d'autres versets sont clairement annonciateurs du Messie. Ça paraît complètement fou. Il est là. Il déclare. Il prouve l'authenticité par les œuvres qu'il accomplit, mais les hommes ne le voient pas. Vous savez, je voudrais vous dire que Dieu utilise des choses simples, peut-être même des choses banales de notre vie, pour accomplir ses desseins. Relisez les différentes prophéties, les différentes paraboles du Seigneur, comment il utilise les choses quotidiennes de la vie pour nous parler du royaume de Dieu. Nous sommes, nous, bien souvent, à l'exemple, vous savez, de Naaman le lépreux. Naaman le lépreux, lui, pensait que, eh bien, il allait être reçu en grande pompe. Il pensait que le prophète allait venir, il allait agir publiquement, vous savez, de manière spectaculaire, et le voilà condamné à prendre un bain comme un simple citoyen. Et il est important pour nous aussi de réaliser et de discerner l'accomplissement de la promesse. Heureusement qu'il s'est soumis à la parole de Dieu, heureusement qu'il a obéi, il n'aurait pas été guéri. Oui, Dieu se sert des événements naturels, il les contrôle parfaitement. C'est lui qui tient tout dans sa main. Et nous passons parfois à côté des voies de Dieu, des façons d'agir de Dieu, et peut-être que Dieu vous avait promis un travail, une fonction, peut-être quelque chose de particulier, et que eh bien, vous attendiez que le big boss, il arrive avec sa super limousine devant chez vous, que le tapis rouge soit dressé, et que voilà, la voix de Dieu qui s'est dressée pour moi. Vous n'avez peut-être pas reconnu le petit poste d'assistant qui vous était offert. Et c'est peut-être là le chemin de l'accomplissement de la promesse. Nous avons un avantage extraordinaire de la présence du Saint-Esprit dans nos vies pour que nous puissions nous exercer à cette sensibilité, mes frères et sœurs, cette voie intérieure où le Seigneur non seulement nous rappelle sa promesse, mais nous montre petit à petit le chemin. Vous savez, c'est comme parfois, je parlais de ces fleurs qui annoncent le fruit, mais aussi, vous savez, cette lueur au fond d'un tunnel. Vous savez, quand on parle de Joseph, on peut parler vraiment de tunnel. Un petit peu cette lueur, ce n'est pas encore le bout du tunnel, mais si nous sommes sensibles à la voix de l'Esprit. Combien de fois nous réfléchissons à la promesse divine et nous entendons au fond du cœur cette voix intérieure, le Saint-Esprit qui nous dit qu'il veut nous diriger de telle façon, de telle manière. Vous savez, nous avons à beaucoup nous méfier de la façon dont nous réfléchissons à la façon dont Dieu va accomplir sa promesse. Et nous devons être sensibles parce que nous pourrions, nous aussi, ne pas discerner tout simplement l'accomplissement de la promesse. Et quel dommage de continuer à attendre ce que Dieu nous a déjà donné. La foi à l'épreuve du temps, je termine. Par rapport à ce que je venais de dire, j'ai noté ce verset. Vous savez, Jésus a dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards » dans Luc 17, verset 20. Ça aussi, c'est un verset important. Je conclus par cette parole de l'Ecclésiaste qui dit ceci « Dieu fait toutes choses belles en son temps. » Voilà. J'avoue qu'il faut parfois des années pour que ça mûrisse en nous. Mais c'est merveilleux de continuer à dépendre, d'être confiant dans le Seigneur, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, parfois des vents contraires. C'est vrai que des fois, il faut nager à contre-courant. Pas facile. Combien de fois Joseph, David, Moïse, lorsqu'ils étaient seuls. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Soyez assurés, mes frères et sœurs, que Dieu ne se trompe jamais. Dieu n'a jamais raté l'heure. Dieu n'a jamais oublié une date, son agenda, il le respecte à la seconde près. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Si un doute est possible, c'est peut-être de notre côté. Il ne faut pas associer une promesse de Dieu à des désirs personnels. C'est un piège important. Il est important peut-être que s'il n'y a pas d'accomplissement de la promesse, de se sonder. N'ai-je pas pris mes désirs personnels pour des promesses divines? Si un doute est possible, c'est peut-être parce que je suis tout simplement dans l'impatience. Que le Seigneur fasse de nous, comme il a fait pour Moïse, les hommes et des femmes, patients, patients, extrêmement patients. Est-ce que aussi, je termine par cette pensée, cela nous a été rappelé dans une prophétie ce matin. Est-ce que j'attends l'accomplissement des promesses avec un cœur obéissant? Parce que quand vous lisez les promesses dans la parole de Dieu, lorsque vous les recevez, elles sont la plupart du temps conditionnelles. Et leur accomplissement est conditionné par une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. Une vie de confiance totale en Dieu. Et je termine par encore ce témoignage de Marie, lorsqu'elle a eu ses paroles, lorsqu'elle a reçu ses paroles de l'ange, nous l'avons lu tout à l'heure, et je le laisse pour terminer comme modèle dans votre cœur. Marie a dit ceci, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. » Amen.